C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, 67 milliards. En 2012, nous, les humains, avons tué et mangé 67 milliards de poulets, cochons, chèvres, dindes, moutons et vaches. 67 milliards. Et c'est un chiffre officiel fourni par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. Donc en réalité, c'est certainement plus. Et les poissons? Attention, vous êtes prêts? 1000 milliards de poissons sauvages et d'élevage sont engloutis chaque année. Et alors, me direz-vous, il faut bien se nourrir? Eh bien, mangeons-nous entre nous, puisque l'on aime la viande. Non, je plaisante. Mais ces chiffres sont vertigineux, vous en conviendrez, et ce n'est qu'une facette de notre relation avec le monde animal. Il y a aussi les tests en laboratoire, les zoos, la chasse. Bref, c'est un véritable carnage qui est en train de nous exploser à la figure et qui, si nous persistons, va accélérer, mais oui, tout simplement, accélérer la disparition de notre propre espèce.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean-Marc Gansil.
Bonjour.
Vous vivez à La Réunion, où vous vous consacrez à l'étude et à la protection des cétacés, maintenant au sein de l'ONG Globis Réunion. Vous avez cofondé l'espace Darwin à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, un lieu précurseur à l'époque qui était consacré à la transition écologique et à l'activisme citoyen. Vous avez aussi été vice-président de l'ONG Wild Angel, qui lutte contre le braconnage en Afrique. Vous êtes donc, on va dire pour résumer, un citoyen engagé. Alors nous vous avions déjà reçu dans C'est pas du vent, pour votre précédent livre, Ne plus se mentir, qui a été un succès de librairie, un petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique, qui invitait à une mobilisation générale qui, pour l'instant, on va dire, n'a pas vraiment eu lieu. Et vous êtes avec nous aujourd'hui, puisque vous publiez un nouveau livre, Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme. C'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Alors tout d'abord, c'est quoi l'anthropocentrisme ?
Alors l'anthropocentrisme, c'est une philosophie qui imprègne totalement notre culture depuis tout le temps finalement, et qui fait de l'homme le centre du monde. En fait, l'homme se considère au-dessus des autres êtres vivants sur cette planète et dispose d'eux à sa guise. Il a un droit de vie et de mort sur chacun et développe une vision utilitariste du vivant. Tout ce qui est là sur cette planète est fait pour le servir, le nourrir, le vêtir, lui donner de la force. Bref, il exploite de façon extensive et intensive tout ce vivant à son unique profit.
Mais alors ça remonte, vous l'expliquez d'ailleurs dans votre livre, depuis que quoi, l'homme fait de l'agriculture ?
Même avant, même si on peut débattre de ces sujets-là, et ce sont des thèmes controversés dans la communauté scientifique notamment. Mais depuis, on va dire la nuit des temps, depuis que l'homme, homo sapiens, doit se nourrir, eh bien, il décime les autres animaux. Parfois, au-delà de ses besoins essentiels, on a réussi à exterminer la mégafaune sauvage il y a 10 à 15 000 ans, enfin, il y a même très longtemps. Uniquement par des techniques de chasse assez rudimentaires, en quelques 3000 ans, l'essentiel de la mégafaune a disparu.
Alors c'est ça la différence finalement fondamentale entre l'humain et les autres espèces. Après, je ne connais pas moi personnellement toutes les espèces, mais c'est que nous, on gaspille énormément, quoi. C'est-à-dire qu'on produit, on chasse, on beaucoup plus que ce dont nous avons besoin.
Et oui,
parce que toutes les espèces se nourrissent et
absolument,
et tuent pour
comparativement
survivre
aux autres animaux, nous sommes aussi des animaux, hein, mais comparativement aux animaux non humains qui ne prélèvent que le juste nécessaire pour se nourrir et qui économisent leur énergie, hein, c'est vital pour eux. Lorsqu'ils prédatent, lorsqu'ils chassent eux-mêmes, eh bien nous stockons, nous mangeons tant et plus, nous constituons des réserves et puis même parfois nous le faisons pour le plaisir, comme nous le voyons notamment via la chasse aujourd'hui dans le milieu rural notamment, où plus rien ne peut justifier finalement ces hécatombes, mais elles perdurent.
Alors ça, c'est un propos très métropolitain, j'ai envie de dire, très franco-français, parce que vous connaissez aussi l'Afrique, vous y êtes allé de nombreuses fois. Je disais, vous étiez impliqué dans une association Wild Angel qui lutte contre le braconnage. Mais vous savez que par exemple, sur le continent africain, parfois on chasse la viande de brousse juste parce qu'on n'a pas trop d'autres choix.
Absolument. Et l'idée n'est pas de condamner ces pratiques-là. Hein. Il y a différentes formes de braconnage. Et effectivement, au sein de Wildlife Angel, lorsque j'y étais, il continuait à le faire. Nous distinguions, bien entendu, toutes les formes de braconnage qui existent aujourd'hui, notamment en Afrique, ailleurs aussi en Asie du Sud-Est, et dont certaines sont juste une façon de subvenir à des besoins vitaux pour une partie de la population. Mais ça concerne une fraction des humains. Il n'est pas lieu de les stigmatiser. Mais par contre, pour l'essentiel des autres qui occupent cette planète, le besoin n'est plus vital et nous pourrions faire autrement tout en ne nuisant moins à notre environnement.
Alors les chiffres sont vertigineux, hein, j'en donnais en introduction 1000 milliards de poissons, 62 milliards de poulets, mais peu importe, ce qu'il faut retenir en fait c'est la banalisation de la violence de l'humain contre toute forme du vivant. Ça nous vient d'où ça?
Oh, ça remonte à très loin, et puis je vais pas faire de la psychologie de comptoir. Je ne sais pas, à vrai dire, d'où ça vient. Ce qui est sûr, c'est que ça perdure depuis tout le temps et que ça a même tendance à s'amplifier puisque ces pratiques, on va dire, de mise à mort, finalement, que nous perpétuons chaque jour, hein, 2 millions d'animaux tués pour notre alimentation chaque minute dans le monde, eh bien, sont totalement invisibilisés. On se rend pas compte, finalement, que le steak qu'on a dans notre assiette ou le poisson qui agrémente un bon plat de notre grand-mère, eh bien, il est le résultat d'un processus extrêmement violent qui décime tout simplement les écosystèmes dont nous sommes interdépendants. Et les chiffres que vous annonciez initialement, c'est 67 milliards, ce n'est qu'une fraction du carnage global, puisque ce sont les statistiques disponibles. En fait, ça ne tient pas compte de toute la faune sauvage. C'est seulement celle qu'on produit pour nous nourrir, alors même que nous n'avons, pour la plupart d'entre nous, pas besoin. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez vertigineux. Il y a une notion que le philosophe Günther Anders utilisait, c'est le terme supraliminaire. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se le figurer pour l'esprit humain. Ça dépasse de tels niveaux d'indécence, d'une certaine façon, ou de tels volumes, qu'on n'arrive même pas à se les représenter.
Alors votre livre, évidemment... se met les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. Bon, c'est un message qui a quand même du mal à passer parce que changer ses habitudes, c'est compliqué. Mais peut-être que la crise sanitaire que nous traversons peut nous permettre un peu d'être plus lucide. Bonjour Serge Morand.
Bonjour.
Vous êtes écologue de la santé, directeur de recherche au CNRS et au CIRAD et professeur à la faculté de médecine tropicale de Bangkok, où vous êtes actuellement d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une zoonose ?
Alors une zoonose, c'est tout simplement une maladie infectieuse dont l'agent parasitaire, microbien, circule entre l'humain et l'animal. Voilà, tout simplement.
Et la Covid-19 en est une ?
Ah, complètement. Donc c'est en fait un virus qui a circulé tranquillement chez des chauves-souris quelque part en Asie et puis qui est passé chez l'humain potentiellement par un autre hôte intermédiaire. Et voilà, donc c'est une véritable zoonose.
Alors, au niveau mondial, le nombre d'épidémies a été multiplié par plus de 10 entre 1940 et aujourd'hui. Et les trois quarts des maladies nouvelles ou émergentes affectant les humains sont des zoonoses.
Oui, tout à fait. Alors, il faut d'abord se rappeler que les animaux domestiques, nos liens avec les animaux domestiques et notamment la domestication nous a donné nos plus grandes maladies infectieuses. Qu'on pense à la rougeole, qu'on pense aux oreillons, entre autres. Et donc, il faut voir que ces animaux domestiques continuent toujours de faire finalement ce lien fort entre les risques sanitaires pour nous et des fois aussi avec ces virus, ces microbes qui circulent dans ce qui reste encore de faune sauvage. Donc, c'est nos liens forts avec les animaux domestiques. Et donc, si les animaux domestiques augmentent en nombre, en quantité, nous augmentons automatiquement les risques sanitaires.
Alors, vous avez publié un article en juillet dernier qui démontre que la croissance mondiale d'élevage de bétail menace la biodiversité et augmente les risques sanitaires pour les humains et les animaux. Alors, pourquoi ?
Alors voilà, c'est ça, parce que de toute façon, à cause, pour différentes raisons, mais surtout avec particulièrement l'augmentation de la viande carnée, de l'alimentation de la animale dans la part humaine et notamment avec l'urbanisation, on a augmenté la quantité d'animaux domestiques et on l'augmente en même temps dans des élevages qui sont de plus en plus industrialisés. Tout ça, il faut nourrir ces animaux. Donc finalement, on va déforester pour produire du soja qui va partir après en Europe pour nourrir les animaux qui vont partir. On va aussi ici couper pour faire en fait du maïs. Donc finalement, on va détruire les habitats des animaux sauvages pour finalement avoir une plus grande empreinte, alors de nous-mêmes, mais surtout une empreinte par nos animaux d'élevage. La quantité augmentant, en plus l'industrialisation de l'élevage se faisant, avec la simplification des races génétiques, tout ça fait qu'on fait des bouillons de cultures particulièrement propices pour des émergences nouvelles de maladies infectieuses.
Oui, et du coup, nous risquons d'autres crises sanitaires comme celles que nous traversons aujourd'hui.
Ah ben complètement. En ce moment, on sait qu'il y a eu un papier qui est sorti. L'OMS vient d'ailleurs d'appeler la tripartite avec la FAO. Nous avons des virus H1N1, le même qui avait en fait sorti en 2009, qui a fait une pandémie, qui est en train de circuler sur plein d'élevages au niveau de la Chine et qui infecte régulièrement les éleveurs. Et donc, on est prévenu, ben voilà, c'est la prochaine qui peut encore potentiellement émerger, repartir en pandémie.
Alors du coup, est-ce que selon vous, ça devrait nous inciter à réfléchir à la place de l'animal dans nos sociétés ?
Complètement, et avec votre invité, j'approuve complètement. Nous avons vraiment un problème de relation avec les animaux, hein, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Il faut vraiment qu'on repense ces liens. Alors sans forcément aller jusqu'au végétarisme, parce que je pense aussi que les animaux domestiques participent, quand c'est avec les vaches familiales, quand il est réduit, participent de la formation des écosystèmes. Ils ont participé aussi d'une diversité culturelle. Mais il faut revégétaliser notre nourriture. C'est absolument indispensable, sinon on est en train de vraiment de se créer à la fois une crise grave de la biodiversité qui est en cours, mais on se crée potentiellement des bombes sanitaires à venir.
Merci beaucoup Serge Morand pour cette participation à l'émission. Jean-Marc Gansil, votre réaction au propos de Serge Morand ?
Eh bien, je suis tout à fait en phase avec ce qu'il a dit. Effectivement, les zoonoses sont parmi les pathologies qui nous menacent le plus certainement dans les années à venir, d'autant plus que les élevages industriels se multiplient, que les espaces sauvages se réduisent comme peau de chagrin du fait justement de la domestication et de l'alimentation carnée qui suppose de nourrir justement ce bétail par des monocultures comme le soja notamment, qui nécessite de vastes espaces qu'on va prendre sur le monde sauvage. Donc tout ça fait système et tout ça propage des pathogènes dont nous sommes nous-mêmes les victimes. Donc je ne peux que souscrire à ce qu'il a dit et j'irai même un peu plus loin sur la nécessité de végétaliser puisqu'on sait à quel point c'est devenu dangereux, à quel point l'alimentation carnée n'est plus indispensable à notre survie. Et je pense qu'il faudrait vraiment accélérer justement les mutations et la transition alimentaire vers du tout végétal.
Vous-même, vous avez complètement arrêté la viande ?
Absolument.
Et le poisson ?
Plus un seul poisson, ni même un seul gramme de viande depuis 5 ans. Alors, c'est une conversion tardive, hein, j'en conviens, j'ai 50 ans. Donc, c'est arrivé à 45. Mais aujourd'hui, je n'y toucherai plus jamais.
Et vous êtes en forme ?
En pleine forme. Je joue au rugby, je fais du trail, je nage, je vais très bien, comme l'attestent mes bilans sanguins.
Allez, une petite pause musicale choisie comme d'habitude par François Porcheron. Voici les petites annonces du carnage par le groupe La Rumeur.
À vendre, mine d'or dans le désert, 2000 têtes pour 2000 tonnes à extraire, frais d'exploitation dérisoire, par employé, 10 grammes de pain plus au croupier à boire.
À vendre, sans plus attendre, parcelles de chair, tout type d'organes et de viscères, foie, cœur, globe oculaire, tout volume et tout âge, étiquetage mexicain, provenance colombienne, contacté en semaine,
9h-20h.
Père et fils, grande boucherie humaine.
À vendre, viande folle pour institut psychiatrique, stock important, DMC périmé, bonus, cervelle de veau, malade, fer vite, déstockage rapide, appelé si intéressé.
Propose virus, gangrène en fœtus, très actif dans l'eau de source plus, cancer très rare, mélanine, peau noire uniquement, testé cliniquement, breveté, déposé.
Cède pour presque rien,
allez, 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 allez,
bâtiment délabré, clim naturel, termites et cafards pour voisins, clandestins sans papier, 4000 francs la parcelle.
Promotion printemps, moins 20% sur nouveau réseau, cabaret thaïlandais, privé et discret, grand choix d'autochtones. 7 jours, 7 nuits, hôtel, repas compris, départ Genève, Bruxelles ou Paris, parrainer un ami et gagner, Ernest Saldi, le bonus fidélité.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages. Feuillette une par une, les petites annonces du carnage. Urgent, recherche, troupeau de sans-papiers parlant peu français, sous arrêt d'expulsion. Taillable et jetable, jetable et taillable pour chantier grand stade en construction.
À vendre, petit nécessaire de torture, fait ses preuves dans interrogatoire musclé. Vendu plus pater, pour chaîne au mur. Bonne affaire, notice, contrôle technique, ok.
À vendre, usine dégrossie, Istanbul, Turquie. Montage, atelier, électroménager. Plus 1200 bras, rapport salaire français, 1 sur 23.
À vendre, stock bébé pour parents stériles, provenance tiers-monde, volé à famille en exil. Certificat médical, choix conséquent, garantie 2 ans, aucune facilité de paiement.
Société offshore, Luxembourg Nord, propose gestion tout confort, transfert blanchiment argent sale, parfait idéal pour campagne électorale.
À vendre, uranium appauvri, prêt pour traitement, fourni avec plan bombe A, montant à débattre, premier prix 100 millions, remise 10% sur équipement de fonction.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Feuillette une par une, feuillette les pages, feuillette une par une, les petites annonces du carnage.
Le groupe de hip-hop français La Rumeur dans C'est pas du vent sur RFI.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Nous parlons du rapport compliqué que nous, les humains, entretenons avec l'ensemble du vivant. Une relation souvent violente que vous démontrez à coups de chiffres vertigineux, Jean-Marc Gonsil, dans votre dernier livre, Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme, publié aux éditions Rue de l'Échiquier. Pourtant, nous avons aussi une fascination pour le vivant. Il y a les activités d'observation de la faune qui se sont beaucoup développées. Vous-même, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, vous publiez des magnifiques photos de cétacés qui font rêver. Donc on a cette aptitude aussi.
Absolument. Et d'ailleurs, on en recherche toujours plus d'émerveillement lié à cette proximité avec le monde sauvage.
D'ailleurs, c'est paradoxal.
Ce qui n'est très paradoxal, ce qui n'est pas sans conséquence. Je fais aussi mon autocritique par rapport à ces magnifiques photos, effectivement, que j'ai la chance de pouvoir publier et qui ont sans doute des effets contre-productifs. Parce que d'une part, elles nous émerveillent, mais en plus, elles nous donnent envie d'aller voir ces animaux et donc de susciter des interactions qui leur sont préjudiciables. Donc, on est dans ce rapport très schizophrénique au vivant. On voudrait le respecter, mais d'une certaine façon, on ne cesse de le perturber.
Le perturber, oui, c'est un minimum. Alors, il y a une nouvelle idée qui commence à prendre de l'ampleur dans le monde. Ça s'appelle le ré-ensauvagement. Vous en parlez dans votre livre, en partant du principe que, au-delà des espèces, ce sont les écosystèmes eux-mêmes qu'il faut sauver. Alors, bonjour Gilbert Cochet.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Valence grâce aux techniciens de France Bleu Drôme Ardèche que je remercie au passage. Vous êtes naturaliste, expert au sein de nombreux conseils scientifiques. Vous êtes président de l'association Forêt Sauvage et avec votre femme Béatrice Crémer-Cochet, vous avez publié La France réensauvagée, puis plus récemment L'Europe réensauvagée, je crois bientôt Le Monde réensauvagée dans la jolie collection Monde Sauvage de chez Actes Sud. Alors, quel est le principe même du réensauvagement?
Je crois qu'on peut prendre le sujet dans une temporalité. Donc, dans un premier temps, du temps des chasseurs-cueilleurs, l'homme avait relativement peu d'impact sur la nature, à part sur les effectifs, comme ça a été très bien évoqué. Et puis, deuxième temps, l'entrée dans le néolithique, là, l'agriculture, le pastoralisme, là, on transforme complètement les paysages. C'est la disparition de la forêt, pratiquement. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en Amazonie, s'est passé en Europe, donc au moment du néolithique. Et puis, le temps suivant, c'est un abandon de certains de ces territoires qui ont été captés par l'agriculture et le pastoralisme. Et donc, on a le retour de la nature. La nature a horreur du vide. Donc, les arbres reviennent, se réinstallent. Et c'est ce qu'on peut appeler un réensauvagement. Alors ça, c'est un réensauvagement naturel, spontané, mais on peut donner des petits coups de pouce, les réintroductions par exemple, les effacements de barrages. L'homme peut enlever ce qui gêne le fonctionnement et l'épanouissement naturel.
Alors je pense spontanément à l'exemple bien involontaire pour le coup de Tchernobyl, hein, où on se rappelle que après la catastrophe, c'est devenu une zone inhabitée et aujourd'hui, il y a des écosystèmes qui sont très complets, qui y vivent. Mais est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de réensauvagement volontaire pour le coup? Parce que c'est ça, cette tendance qui prend de l'ampleur à l'échelle de la France, de l'Europe et du monde.
Oui, alors en effet, on se rend compte d'abord sur des petits territoires que lorsqu'on protège, le cas du parc national suisse est très intéressant. Il a été créé en 1914 et d'emblée, on a décidé qu'on ne ferait rien. Donc on laisse la nature évoluer librement. Et on s'est rendu compte qu'elle se débrouille très très bien, comme je disais tout à l'heure. Et les forêts donc progressent, vieillissent, les arbres grandissent, les effectifs d'animaux, les chamois, les bouquetins sont auto-régulés. Donc c'est pas la peine de venir avec son fusil en disant on va leur mettre une balle dans la tête parce que sans ça ils vont être beaucoup trop. Ça c'est complètement faux. Donc les animaux s'auto-régulent parfaitement. Les habitats ne se ferment pas. Il n'y a pas disparition des pelouses, parce que, bien entendu, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de moutons, mais il y a des cerfs, il y a des chamois, il y a des bouquetins, et qui font très bien l'affaire. Et on a de belles prairies. Donc ça, c'est un exemple qui a donné un petit peu d'audace, et on s'est dit, on va étendre des territoires, comme ça, en les laissant en libre évolution, c'est le maître mot. Alors, des exemples, il y en a plusieurs, c'est le cas des Abruzzes. Donc il y avait le parc national des Abruzzes qui date des années 20, et on a rajouté la Mayelle, on a créé 3 ou 4 parcs nationaux. Et les Italiens sont extraordinaires pour ça, et notamment c'est sous la férule de Franco Tassi, qui était directeur du parc national des Abruzzes, et en même temps président de l'association des parcs nationaux. Et les Italiens ont une densité humaine la double de la nôtre, et ils ont créé à peu près 25 parcs nationaux. On en est loin. Métropolitain, enfin bon, nous on a des territoires outre-mer, mais métropolitain, on ne fait pas grand-chose, quoi. Donc voilà, il y a d'autres exemples, le delta de l'Oder, donc entre l'Allemagne et la Pologne. Donc là c'est pareil, on a les poissons migrateurs qui remontent, on a l'élan, on a le castor, on a des espèces qui reviennent spontanément. Et c'est vrai que ces expériences de réensauvagement, de rewilding, comme on dit, sont positives et optimistes. Donc, on en a un peu besoin. Parce que c'est vrai que ce qu'on a évoqué là, et ce qui est complètement vrai, fait un peu froid. Je prendrai l'exemple de la chèvre sauvage qui résiste un petit peu dans le Caucase et dans les montagnes alentours. C'est quelques centaines, quelques milliers d'individus. La chèvre domestique, c'est 1 milliard d'individus. Donc, et pour toutes les espèces qui ont été domestiquées, c'est le même ratio, quoi.
Et alors, ce que vous expliquez aussi, et je dois dire que ça, c'est assez fascinant, c'est que c'est plus rentable, finalement, de laisser les écosystèmes vivre par eux-mêmes que de chasser ou de pêcher. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire ce que je vais appeler la démonstration du mérou?
Ah, le fameux mérou. Le mérou, c'est pas compliqué. Pendant longtemps, quand on plongeait, bon, c'était la règle, hein, on tue. On voit, on tue. Ailleurs, tout nid découvert est un nid détruit. L'homme, il est comme ça. Un naturaliste qui dit, vers Grenoble, il y avait 17 ou 18 faucons cobèzes, un très joli faucon. Et c'est au 19e siècle. Il dit, mais bon, voilà, ils se sont posés près du village. Mais comme tout le monde est chasseur, ou presque, dès le lendemain, ils étaient tous tués. Donc on était dans ce milieu. Et le mérou, pareil. Donc les plongeurs, chaque fois qu'ils voyaient un mérou, ils balançaient la flèche et ils le récupéraient pour le manger. Et donc des mérous, il y en avait de moins en moins, bien entendu. Donc on a dit, c'est la faute de la pollution. C'est la pollution. Alors c'est vrai que la Méditerranée est polluée, mais bon. Et le parc national s'est créé en 1963. Et donc on a protégé les mérous. Et les plongeurs donc venaient regarder le mérou, s'extasier, il est beau le mérou, et ils payaient pour la sortie, la palanquée, la descente avec les bouteilles. Et comme ils n'ont pas tué le mérou, il y a une autre palanquée qui vient, le mérou il est toujours là. Alors là il a fallu de grosses études hein, pour arriver à démontrer ça. Donc que quand on ne les tue pas, ils vivent. Et donc on paye une deuxième fois, puis une troisième fois, etc. Et un mérou, ça peut vivre 40-50 ans. Et le parc national de Porquerolles a calculé que durant la vie d'un mérou, un mérou, il rapporte à peu près 400 000 euros. Donc vous le tuez, eh bien, il rapporte très peu. Vous le laissez en vie, il rapporte énormément.
Et c'est pareil si on transpose pour beaucoup d'animaux, notamment voilà, un éléphant vivant, ça vaut évidemment beaucoup plus cher si on développe un écotourisme bienveillant que un éléphant mort. Jean-Marc Gancil, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Gilbert Cochet ?
Oh ben, j'y adhère évidemment. Ce qu'il dit en filigrane, c'est que quand on veut protéger les espèces, il faut protéger les espaces. Et aujourd'hui, on a atteint un tel niveau de réduction de la faune sauvage, qui a été décimée, comme on l'a dit précédemment, mais qui ne représente qu'une portion congrue de tous les animaux sur cette planète, en tout cas vertébrés. Et il nous faut absolument faire en sorte qu'ils soient protégés de notre expansion humaine et des destructions écologiques qui leur nuisent, et que d'une certaine façon, ils puissent avoir des habitats où ils puissent s'épanouir sans subir continuellement nos pressions. Donc cette tendance, effectivement, qui est naissante et qui est encourageante au rewilding, au réensauvagement, me semble être une des solutions qu'il faut absolument encourager, multiplier. Voilà la première réaction. Et la deuxième, au regard de ce que disait Gilbert Cochet sur le mérou, nous on constate un peu la même chose sur la baleine. La baleine qui était chassée de façon intensive par la pêche industrielle pendant des décennies a quasiment disparu. Je parle notamment de la baleine à bosse. Et aujourd'hui, ces populations se reconstituent, on ne la chasse plus ou quasiment plus. Et puis on a changé de rapport à cet animal, alors toujours de façon un peu utilitariste, puisque maintenant on parle de whale watching, on va l'observer, on s'émerveille à son contact. On a la chance dans les zones tropicales de bénéficier de migrations annuelles lorsqu'elles viennent mettre bas et s'accoupler dans nos eaux plus chaudes. Et là, évidemment, elles ont une valeur qui est bien supérieure, je parle économiquement en parlant, même si j'aime pas trop ça, comparativement à celle qu'elles pouvaient avoir lorsqu'on les tuait.
Oui, mais s'il y a des règles, par exemple, pour tout vous dire, je me souviens avec François Porcheron, on avait fait une expérience comme ça. On était allé voir en Polynésie des baleines. On n'avait pas le droit d'approcher à plus de 30 mètres. Enfin bon, il y avait des règles qui étaient très très précises. J'ai envie de dire, tout le monde s'y retrouve.
Plus ou moins, parce que il faut encore que ces règles puissent être contrôlées, sanctionnées. Ça demande des moyens que souvent les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment pour le faire. Et donc, on constate malgré tout une certaine forme de désordre sur le plan d'eau qui peut nuire à ces animaux. Et puis, plus fondamentalement, ce qui me gêne, c'est qu'on est toujours dans ce rapport utilitariste. Les baleines, comme le mérou, comme la chèvre, ou quelque animal que ce soit, il a une valeur intrinsèque, indépendamment des services qu'il peut nous rendre. Et il faudrait qu'on commence à prendre conscience de ça et qu'on arrête de vouloir systématiquement en tirer profit.
Ah oui, mais ça, c'est toute une révolution qu'il faudrait en effet avoir rapidement. Un moyen de nous réconcilier avec le vivant, peut-être, parce que malgré tout, on ne protège bien que ce que l'on aime, c'est quand même de l'observer. Alors encore, faut-il avoir accès à ces espaces et sortir des villes. D'ailleurs, comment ça se passe, le rapport avec les animaux sauvages en ville? On en parle après une pause musicale en compagnie du Ghanéen Ebo Taylor, Love and Death. Walk hand in hand. Bo Taylor, Love and Days dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Gansil aujourd'hui qui vient de publier Carnage pour en finir avec l'anthropocentrisme aux éditions Rue de l'Échiquier. Le naturaliste Gilbert Cochet nous a rejoint depuis les studios de France Bleu Drôme Ardèche situés à Valence dans le sud de la France. Nous parlons de notre rapport au vivant. Bon, nous l'avons dit, hein, globalement, ça va mal. La biodiversité disparaît à une vitesse vertigineuse. Allez, un chiffre parmi d'autres, extrait du dernier rapport du Fonds mondial pour la nature. En moins de 50 ans, les deux tiers des animaux sauvages ont disparu. Mais rappelez-vous ces images qui ont fait le tour du monde pendant le confinement, les animaux sauvages circulant dans les rues des grandes villes du monde. Eh bien, c'est une réalité qui prend de l'ampleur. Encore faut-il savoir l'observer. Alors, parfois, ça s'impose. Un renard a mis le bazar dans le métro parisien, un raton laveur dans le métro new-yorkais. Et l'augmentation du nombre d'animaux sauvages dans les zones urbaines est désormais avérée. Les villes conçues pour les repousser et qui abriteront les deux tiers de l'humanité en 2050 seraient donc elles aussi en train de se réensauvager. C'est la thèse que vous défendez dans votre livre, Joël Zask. Bonjour.
Bonjour.
Zoocities, des animaux sauvages dans les villes. C'est publié aux éditions Premier Parallèle. Mais qu'est-ce qui les attire ?
En fait, ce qui les attire, c'est aussi ce qui les repousse, c'est-à-dire que de nombreux animaux sauvages ne trouvent plus dans la nature ce qu'il leur faut pour subsister. Et en revanche, alors que la nature est de plus en plus fragmentée, détruite, exploitée, mise sans dessus dessous, eh bien les villes, au contraire, s'étendent, s'étalent et verdissent. Et du coup, les soins que nous portons à notre propre existence en tant qu'espèce humaine pourraient bien profiter aux animaux sauvages. C'est ce retournement que j'étudie.
Il y a de nombreux exemples, hein. Je le disais, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Alors, il y a énormément d'exemples. Il y a des macaques un peu partout dans les villes de l'Inde. Il y a des kangourous dans les villes australiennes, notamment à Canberra. Il y a des pumas à Los Angeles. Il y a évidemment des renards, des sangliers, des cerfs dans les villes européennes. Également des cerfs dans un certain nombre de villes japonaises. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr aussi la prolifération de plus en plus visible et objectivée des animaux sauvages qui étaient déjà en notre compagnie depuis longtemps. Il y aurait 1500 espèces d'animaux sauvages à Paris, dont des méduses dans la Seine. C'est un peu drôle, ça m'avait fait rire. Beaucoup d'oiseaux, des insectes, et puis aussi bien sûr des plantes. Et donc, par exemple, durant le confinement, ce qui a été assez touchant, je trouve, et moi j'ai partagé ce sentiment d'émerveillement, c'est que des animaux n'ont pas... exotiques étaient apparus, mais des animaux qui sont nos voisins et qu'on n'avait jamais véritablement considérés, comme quelques canards traversant le parvis de l'hôtel de ville.
Et alors, du coup, vous concluez votre livre en écrivant que nous devrions aller vers une nouvelle alliance. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Comme vous l'avez très bien dit, la ville n'est pas faite pour les animaux. Elle-même, traditionnellement, et depuis la nuit des temps, j'ai envie de parler de Babel ou de Jéricho, elle est faite contre la nature. Et cette ville destinée à repousser l'imprévisible, à repousser le désordre, à repousser ce qui fait sale et à repousser ce qui n'entre pas sous notre coupe, qui n'obéit pas à nos ordres en quelque sorte, et bien justement cette ville elle est mise en cause et je dirais que l'apparition et l'attention que nous avons portée à ces animaux est une chance pour la ville, c'est une chance pour la reconstruire. Je dirais que cette alliance, elle est un petit peu aussi avec nous-mêmes et elle est beaucoup avec les animaux. C'est-à-dire que face à l'hypothèse que j'ai faite, à savoir l'augmentation considérable du nombre d'animaux sauvages dans les villes, ce qui me semble être une hypothèse assez raisonnable finalement, nous sommes actuellement devant une alternative un peu impossible. D'un côté, tous les tuer, les repousser, les piéger, etc. Ce qui va évidemment à l'encontre à la fois de nos soucis de la biodiversité puis de notre morale. Et puis de l'autre côté, tous les accueillir. Mais ça, c'est pas possible. Je dirais que c'est impossible parce que justement, il y a le Covid. Et je crois que la promiscuité avec les animaux, c'est aussi un risque que dont le Covid ou la Covid nous a fait prendre conscience.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Donc voilà, c'est ça. Je dirais cette alliance serait logée c'est l'hypothèse que j'ai faite, dans la coexistence, c'est-à-dire la création d'une ville appropriée au voisinage. Et le voisinage, qu'est-ce que c'est? C'est le fait justement que un certain nombre d'êtres se trouvent à une distance géographique menue par rapport à nous. Et gérer la coexistence, c'est très précisément créer la bonne distance. Et je pense que ça peut être un programme urbanistique tout à fait intéressant que de s'interroger sur la bonne distance. Nos voisins ne sont ni nos amis, ni nos ennemis. Nous ne choisissons pas nos voisins, mais il se trouve que nous ne pouvons ni les tuer, ou nous ne devrions ni les tuer, ni les faire rentrer dans la maison. Et je pense que c'est cet équilibre-là qui est intéressant à imaginer, et à partir duquel peuvent justement s'élaborer, s'imaginer des formes de ville très différentes de la ville forteresse ou de la ville fortifiée, idéalement coupée de la nature qui est la nôtre, en tout cas idéalement jusqu'à aujourd'hui.
Merci Joël Zask. Je rappelle le titre de votre livre Zoo Cities, des animaux sauvages dans les villes. C'est publié aux éditions Premier Parallèle. Jean-Marc Gancy, comment est-ce que vous réagissez à ces propos? Est-ce que vous saviez qu'il y avait 1500 espèces sauvages à Paris et des méduses dans la Seine?
Non, j'ignorais qu'il y en avait autant, et notamment des méduses dans la Seine. Ça, c'est assez surprenant, mais rien ne m'étonne. Finalement, le fait que ces espèces soient là, et parfois qu'elles se cachent de nos yeux, n'est pas si surprenant que ça. J'ai été très surpris, notamment à la faveur des dernières élections municipales, mais agréablement surpris que certaines municipalités décident de créer des postes de délégués à la condition animale au sein même des métropoles. C'est le cas à Bordeaux avec une personne qui s'appelle Francis Fay, qui a justement ce titre d'adjoint à la condition animale, ce qui prouve bien le souci que certains ont d'une meilleure cohabitation, puisque c'est un fait, les animaux sont là. Les animaux sont là, et comme le disait à l'instant Joël Zask, tous les éradiquer n'est probablement pas la solution. En tout cas, moralement, c'est forcément assez répréhensible. On peut pas non plus faire en sorte que ils soient partout, parce qu'il y a la diffusion des pathogènes éventuels, et puis des coexistences qui seraient complexes à organiser. Mais il y a peut-être des façons d'organiser la ville de telle sorte que chacun puisse y trouver à peu près sa place. Et ça me fait penser à notamment certaines innovations architecturales. Je me souviens avoir écouté ça dans un podcast dont j'ai oublié le nom, qui mentionnait notamment un travail d'architecte qui réservait dans ses buildings des étages, ou en tout cas des parties d'étages, à des rapaces, pour justement qu'ils puissent y nicher. Et je trouvais ça très intéressant.
Il y en a qui nichent d'ailleurs en haut des gratte-ciel à New York. Gilbert Cochet, comment est-ce que vous réagissez à ces propos sur le réensauvagement, finalement, qui se fait un peu tout seul des villes?
Oui, alors en effet, ça c'est intéressant, parce qu'on se rend compte qu'on avait dit qu'il faut qu'il y ait des sanctuaires, et ces sanctuaires, il faut les relier par des corridors. Alors le corridor, on imagine une sorte de tuyau comme ça, un peu rigide, et on se rend compte que la nature, elle fait encore beaucoup mieux. Elle nous fait du réensauvagement interstitiel, c'est-à-dire partout où c'est possible, elle y va, elle s'installe, elle tente, puis si ça marche pas, elle s'en va. Et donc ces multipotentialités, il faut les laisser s'épanouir, alors bien sûr en veillant à ce qu'il n'y ait pas de trop grande promiscuité, notamment avec le problème des microbes, mais on aura tout à gagner si le matin, en partant travailler, on croise un renard qui va illuminer notre journée, parce que cette observation, on va pouvoir la garder. Vous voyez, j'ai eu l'immense privilège de visiter la grotte Chauvet, donc en Ardèche, puisque je suis président du conseil scientifique de la réserve des Gorges. Et dans cette grotte, on voit toute une série de peintures absolument magnifiques, avec des animaux qui ont été observés de très près, parce qu'il y a des détails qu'on ne peut pas voir autrement qu'en étant très près. Et le Cro-Magnon, il avait ni téléobjectif, ni paire de jumelles. Donc cette proximité de l'animal sauvage et de l'homme, on en a besoin, avec bien entendu une certaine limite. Mais on nous l'a volé, avec notamment la chasse, qui fait qu'un animal qui voit un homme part à plusieurs centaines de mètres. Alors que dans les territoires où c'est protégé, dans les parcs nationaux anciens comme à Yellowstone aux États-Unis, vous avez les muldeers qui sont à quelques mètres de vous et qui vous ignorent, quoi, pratiquement. Donc on a un rapport avec le monde sauvage qui est beaucoup plus apaisé, serein. Et donc cette relation, elle est très importante. Et donc il faut laisser effectivement la nature aller là où elle a envie. Et dans les villes, pourquoi pas.
apaisé et serein, je vous écoute, mais je suis un peu dubitatif quand on voit par exemple la réaction en France face au développement des populations de loups ou tout le débat autour des ours. Je suis pas sûr que ça soit des débats très apaisés et sereins.
Oui, mais là on parle de l'écume. Parce que le loup, par exemple, le loup en... Nous, on est rhône-alpin, donc jamais j'aurais pu penser, en étant naturaliste rhône-alpin, qu'un jour le loup allait revenir. Et dans les Alpes françaises, vous avez actuellement 80 meutes de loups. Et une meute de loup, elle a un territoire de 300 km². Si vous divisez la surface des Alpes françaises par 300 km², il y a la place pour 110 meutes. Et il y en a déjà 80. En 2019, le loup s'est reproduit dans tous les pays d'Europe, sans exception, à part les îles britanniques, parce qu'il faudrait lui fournir un petit canoë. Mais dans les Pyrénées, on a maintenant une soixantaine d'ours. On a eu 10 oursons cette année. Alors bien sûr, il y a l'écume. Il y en a quelques-uns qui font beaucoup de bruit. Mais on a fait beaucoup de conférences, et encore tout dernièrement avec Béatrice, mon épouse, en Ariège. À la fin de la conférence, on a plusieurs bergers qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Nous, on n'est pas du tout anti-ours, et ni même anti-loup. Au contraire, ça valorise notre métier. » Donc, il y a toute cette... il faut faire la part entre l'écume bruyante et rugissante, et puis ceux qui, au contraire, savent le bonheur qu'ils ont de vivre dans cette nature, et que la présence du loup, notamment pour les forestiers, est très intéressante parce que le loup va limiter les ongulés, les cerfs qui peuvent faire des dégâts. Enfin, tout ça est parfaitement rodé. Il faut pas oublier que la vie existe depuis à peu près 4 milliards d'années. Donc 4 milliards d'années de R&D, de recherche et développement, ça vous fait que le bonhomme, lui, bon, il n'est pas là depuis longtemps. Hein. Donc respect, hein, dans un premier temps. Hein, voilà.
Respect dans un premier temps. Jean-Marc Gansil, vous concluez votre livre en expliquant justement que la cause animale, ce n'est pas un délire, je vous lis, hein, ce n'est pas un délire d'extrémiste, mais précisément l'inverse. Elle est la cause de l'humanité, la clé d'une reconstruction éthique, écologique, sociale et politique potentiellement susceptible de nous sauver de nous-mêmes.
Oui, je crois qu'on l'a détaillé dans les différentes interventions des intervenants aujourd'hui. On est en train, effectivement, de comme on dit habituellement, de scier la branche sur laquelle on est assis. Hein, ce que disait à l'instant Gilbert Cochet sur le fait que cette R&D de la nature, en tout cas du vivant, qui est l'aboutissement de millions d'années d'évolution, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux, qui a permis justement à certaines espèces d'être toujours là, dans des environnements qui eux-mêmes ont changé. Ça veut dire qu'elles ont des capacités d'adaptation phénoménales, et que nous sommes totalement interdépendants de ces espèces, parce que nous partageons un espace de vie équivalent, qu'elles nous fournissent des services écosystémiques, comme on dit, parce qu'elles sont là et qu'elles régulent des espaces, parce qu'elles elles participent à l'épuration des cours d'eau pour certains, à la régulation de la grande machine climatique pour d'autres, et tout ça nous profite. Donc décimer sans aucune limite tous ces organes fonctionnels de cette planète Terre que nous partageons avec eux, bah, c'est tout simplement nous tirer une énorme balle dans le pied. Voilà pour ce qui est, je dirais, de notre intérêt bien compris. Et puis après, philosophiquement, à partir du moment où aujourd'hui nous savons que nous pouvons totalement bien vivre, je parle d'un point de vue nutritionnel notamment, sans consommer de protéines carnées, pourquoi nous acharner à vouloir le faire, indépendamment effectivement d'une culture qui existe depuis fort longtemps? On peut aujourd'hui s'en affranchir, vivre tout aussi bien en respectant ces animaux et en créant d'autres formes de relations. Donc je dirais tout concourt aujourd'hui à établir ce nouveau rapport au vivant, ce nouveau rapport aux animaux notamment, dont on sait qu'ils souffrent et qu'ils sont sensibles. Donc pourquoi ne pas le faire, puisque c'est notre intérêt?
Alors ça passe par quoi? Par l'éducation?
Ça passe par quoi? Ben, par cette prise de conscience qui effectivement peut survenir de plein de choses, d'une balade en forêt, d'une intervention d'un professeur de sciences naturelles, de lecture, de reportages qu'on peut voir à la télé ou écouter à la radio. S'il y avait qu'une seule stratégie pour y parvenir, ça se saurait. On est tous en train d'essayer d'y parvenir en sensibilisant à notre façon, d'une façon ou d'une autre, et c'est complexe. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est que les connaissances accumulées par la science, par les publications, nous démontrent que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est vital à faire, que d'arrêter ce carnage, mais qui est aussi philosophiquement souhaitable et en tout cas éthiquement juste, dans la mesure où, comme nous, les animaux ont les mêmes substrats de la conscience, de l'émotion, de la souffrance, de la conscience d'eux-mêmes, enfin tout un tas de choses qui font que rien ne justifie aujourd'hui, de les traiter comme nous le faisons. Et ça peut être aussi une nouvelle façon de sensibiliser ceux qui aspirent à des relations apaisées avec les animaux.
Gilbert Cochet, pour vous, en quelques mots, ça passe par quoi, ce changement de mentalité qu'il devient urgent de voir advenir ?
Je crois qu'il y a toute une partie pédagogique, mais au sens très large du terme. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était pas très utile, voilà. Et puis, et finalement, actuellement, en voyant les jeunes générations arriver, celles qui ont eu, comme le disait Jean-Marc à l'instant, donc des professeurs de sciences de la vie et de la terre, comme nous, ce que nous sommes, Béatrice et moi, donc plus soucieux de la qualité de préservation de la nature, ce discours-là, eh bien, il marque les esprits. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse, nous avons deux filles, et elles sont toutes les deux très écolo, on va dire, très protectrices. Elles mangent un peu de viande, mais très très peu. Et sans être végane, voilà. Et elles ont dans leur entourage beaucoup de jeunes. Donc, je crois que l'information, la pédagogie, l'exemple, tout cela est indispensable. Et puis, on arrive actuellement à un monde de médias, à une époque de médias qu'on n'avait pas auparavant. Donc, des tas d'informations qui transitent à toute vitesse, alors des moins bonnes, des meilleures, etc. Il y a un peu de tout. Mais là aussi, on a quand même une approche qui peut être très positive. Et on en voit les effets par la suite. Et je pense qu'on en est qu'au tout début.
Vous aussi, Jean-Marc Lancil, vous êtes optimiste malgré cette photo terrible que vous faites dans votre livre du rapport de l'humain au vivant.
Je suis pas très optimiste, non. J'essaie de rester lucide, mais j'essaie aussi de percevoir ce qui peut donner une certaine forme d'espérance dans l'avenir. Et comme le disait Gilbert, il y a effectivement des jeunes générations qui sont beaucoup plus sensibles à ces questions, qui sont moins imprégnées de traditions, de cultures ou d'habitudes, ou en tout cas qui en changent et qui n'ont pas peur de le faire. Et c'est vrai que chez beaucoup de jeunes, il y a un certain rejet, notamment de l'alimentation carnée, parce que ils réalisent ce que ça suppose en amont, et ils n'ont plus envie de cautionner ça. Et ça, on le voit partout autour de nous, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer, et qui pourrait être une vraie déferlante dans les années à venir, en tout cas je le souhaite.
Donc on revient à l'éducation et donc au partage des connaissances. Bah écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci aux équipes de France Bleu Drôme Ardèche pour le duplex et à François Porcheron pour la réalisation. Les références des livres de nos invités sont sur la page internet de l'émission et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous découvrirez des bonus de nos invités en vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure. Thank you.